A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Laura a toujours rêvé de pouvoir offrir la double nationalité américaine à son futur bébé, alors elle s'est expatriée à Miami dès que l'occasion s'est présentée. Une vie de rêve au bord de la mer, mais qui cachait quelques mauvaises surprises au moment de sa grossesse. D'abord, lorsqu'elle annonce qu'elle est enceinte à son travail, après des félicitations, Laura est finalement mise à la porte sous de faux prétextes. Ensuite, elle découvre la réalité du système de santé, qui est absolument hors de prix. Elle apprend également que la césarienne est opérée pour quasi tous les accouchements, que le congé maternité ne dure que 2 jours et qu'il faut être plutôt bien dans ses baskets pour vivre son postpartum, notamment lorsqu'on accouche en plein Covid. Du rêve américain à la réalité de Miami, Laura nous raconte ses déboires et pourquoi elle ne recommande pas forcément d'accoucher en Floride. Elle nous parle évidemment aussi de tout ce qu'elle aime là-bas. Bonne écoute.
Bonjour Laura.
Hello.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec plaisir. J'espère que ça pourra aider certaines.
Et tu nous parles en direct de Miami.
Oui, tout à fait. Je vis ici depuis 2 ans maintenant. Effectivement, je suis expatriée depuis février 2019 et j'ai eu ma petite fille aussi ici.
Et alors, pourquoi Miami ?
Parce que Miami, c'est parfait. Parce qu'il fait beau, parce que les gens sont sympas, que tout le monde parle anglais et espagnol, que voilà, il y a la mer, c'est génial.
Ouais. T'étais déjà expat avant ?
Ouais, en fait, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. J'ai vécu à Londres, aux US et après au Mexique. Et du coup, j'avais envie de repartir. Je suis restée 11 ans à Paris après ça, donc j'avais vraiment besoin d'exotisme et de tropique.
Et alors, comment est arrivé le sujet de la maternité, toi, dans ta vie ? Est-ce que déjà, c'est quelque chose à laquelle tu pensais plus jeune ?
J'ai toujours pensé que j'aurais des enfants, mais en fait, à 25 ans, je pensais que j'en aurais à 28. À 28, je me suis dit, oula, non, c'est trop tôt, j'en aurais à 30. À 30 ans, je me suis dit, bon, on va faire 32. Et puis à 32, je me suis dit, bon, arrête. Maintenant, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, donc il va falloir se lancer à un moment donné. Et moi, j'ai toujours voulu, bizarrement, avoir un enfant américain. Je sais pas, j'ai tellement eu un coup de cœur pour les États-Unis que je me suis dit, j'ai envie de lui faire ce cadeau, d'avoir 2 passeports, de pouvoir choisir sa langue, de pouvoir choisir où est-ce qu'il ou elle a envie de vivre. Donc c'était un peu dans mes plans, quoi. Quand je suis allée aux États-Unis, je me suis dit, ça tombe trop bien.
D'accord, donc t'as rencontré ton chéri là-bas ?
Pas du tout, j'ai le même chéri depuis 9 ans et je l'ai rencontré à Paris. Donc voilà, après du coup il m'a suivi parce qu'on a eu des opportunités du boulot qui nous ont permis de partir, mais à la base, il n'était pas du tout dans le délire, lui.
D'accord, donc vous êtes français tous les deux, en fait.
Oui, on est français tous les deux.
Et alors, à quel moment vous avez parlé tous les deux, justement, de devenir parents ?
Juste avant de partir aux États-Unis, moi, je lui ai fait part de mon projet d'avoir un enfant là-bas. Et puis, ça tombait bien, parce que ça tombait vraiment avec l'âge. Tu vois, je lui ai dit, écoute, bon, voilà, j'ai 31 ans, là. Maintenant, je pense que c'est le moment. Je me sens prête, etc. Lui m'a dit que lui aussi, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va tester. En fait, moi, je pensais vraiment que ça allait prendre des années, puisque on entend vraiment que la moyenne, c'est 1 an et demi, que ça prend du temps. Donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on va commencer, puis on verra. Et puis, on a commencé. Et je suis tombée enceinte le mois d'après, mais j'ai fait une fausse couche. Et alors, tu vois, pour moi, pour le coup, ça n'a pas été plus que ça un big deal. Parce que c'était très, très tôt dans le terme aussi, tu vois. Enfin, c'était vraiment, je pense que j'avais, je sais pas, 8 ou 9 jours de retard de règles. Voilà. C'est juste que j'ai trouvé ça traumatisant pour le corps, parce que c'est énormément fatigant, il y a beaucoup de sang, blablabla, bref. Mais voilà, je ne m'a pas plus marqué de ça, tu vois, je ne me suis pas dit, oh là là, cet enfant perdu, enfin, voilà, je me suis dit que c'était simplement pas le moment, ou c'était peut-être pas maintenant, quoi. Ouais. Et puis finalement, je suis tombée enceinte le mois d'après, et là, bah, du coup, ça a été la bonne.
Et donc là, tu étais déjà arrivée à Miami ?
Ouais, j'étais déjà arrivée à Miami, j'étais dans un job qui me demandait énormément de voyages, de business trip, j'avais beaucoup de responsabilités. Donc, je pense que ça a dû jouer aussi parce que tu vois, j'étais pas focus sur les enfants, quoi. Je sais que si on commence à devenir obsédé, peut-être que ça peut ralentir. Je sais qu'il y a le psychologique qui joue beaucoup. Pour le coup, moi, j'étais pas du tout obsédée là-dessus parce que j'avais vraiment pas vraiment le temps d'y penser, on va dire. Donc, je pense que ça a joué. Et voilà. Et puis, dans les boîtes américaines, enfin, en tout cas, dans toutes celles que j'ai fait, le boulot, c'est important, on travaille tout le temps, il n'y a pas de week-end, etc. Donc, j'étais vraiment très occupée au niveau de l'esprit.
Donc, tu tombes enceinte. Est-ce que tu t'es renseignée sur la manière dont ça fonctionnait, justement, aux États-Unis, qui peut être purement différente de celle de la France ?
C'est en effet très différent. Je ne m'étais pas trop renseignée. La seule chose que j'avais entendue, c'est que les césariennes, ici, c'est quelque chose de courant, voire recommandé. Mais si tu veux, je m'étais pas vraiment penchée sur la question parce que déjà pour moi césarienne c'était hyper flou. En plus j'entendais beaucoup en France le terme césarienne de confort, donc je me suis dit bon bah s'ils préfèrent faire ça, à la limite tant mieux quoi, sans me renseigner plus que ça. Donc voilà, du coup je me suis renseignée que au moment où j'ai dû trouver un gynéco, parce que tu vois ici c'est les gynécologues qui accouchent, et c'est à l'inverse de la France, c'est pas des sages-femmes ou quoi que ce soit, c'est t'as un gynéco et c'est lui qui t'accouche. Et en fait, en cherchant les gynécos, je suis tombée sur deux femmes. Enfin, je suis tombée sur une première femme qui m'a dit « Ah, moi, celles qui veulent pas accoucher par césarienne, c'est hors de question. » Donc, du coup, je me suis trouvée un peu bête parce que pour moi, ça me semble lunaire, en fait. Moi, en tant que Française, j'ai l'impression qu'en France, il faut limite forcer si tu veux une césarienne, tu vois. Donc, bon, voilà. Du coup, j'ai pas trop demandé. Je me suis dit « Bon, celle-là, j'ai pas trop le feeling, je vais aller voir une autre. » Je suis tombée sur une autre femme. Pareil, elle m'a dit « Moi, c'est que les césariennes, je fais pas les accouchements naturels. » Donc, je me suis dit, bon, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Donc là, j'ai commencé à me renseigner effectivement sur qu'est-ce que c'est la césarienne, qu'est-ce que ça implique et pourquoi ils le font. Personne ne me répondait vraiment de pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'accouchement naturel, tu vois. Mais ça, je te parle de ça, c'est vraiment très spécifique à Miami, hein, parce qu'il y a beaucoup d'influence latina et qu'elles sont plus branchées césariennes. Par contre, si tu vas dans un autre état, genre New York, San Francisco, etc., Californie et tout ça, il y aura pas ce même, je pense qu'il n'y aura pas trop la même ambiance. Donc j'ai trouvé, je suis allée sur Google et j'ai pris le gynéco le mieux noté de tout le quartier et je suis allée le voir et je lui ai dit bon moi je vous explique tout de suite, il n'y a pas de césarienne qui tienne, c'est moi qui décide comment j'accouche quoi. Et là il m'a répondu bah évidemment en fait moi les césariennes je trouve que c'est dangereux, enfin voilà, bref. Donc du coup je me suis dit ok, bon, un mec sensé, je vais rester avec lui. Et puis bah du coup j'ai eu confiance en lui et là j'ai découvert tout le monde de la maternité mais vraiment au travers des yeux des Américains quoi. Donc tu vois j'ai des échos toutes les deux semaines, j'ai été extrêmement suivie, j'avais des prises de sang quasiment toutes les deux semaines, pareil des tests d'urine etc. J'ai fait tous les tests mais tout ce que tu peux imaginer, enfin tu vois les tests génétiques ils vont te chercher la petite maladie que toi tu as une chance sur 3 millions de l'avoir mais bon faut que tu le saches quoi. Bref. Et du coup, ça m'a hyper rassurée, si tu veux. Je sais qu'en France, si tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'en France, c'est 3 échographies sur toutes les grossesses. Et je sais pas, moi, ça me paraissait hyper stressant quand on m'a dit ça, du coup. Parce que, si tu veux, en fait, pendant les 3 mois où t'as pas d'infos, ça doit être, tu dois te dire, mais attends, mais comment il va? Enfin, je sais pas, mais là, du coup, t'as pas trop le temps de stresser puisque toutes les 2 semaines, bah, tu as un petit check, tu vois ton bébé. Donc, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé ça.
Et au niveau finance? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que comment ça se passe?
Ça coûte un bras. Ça coûte super super cher. En fait, ici, donc quand tu travailles dans une entreprise, t'as pas d'assurance, t'as pas de sécu. Gros. Tu as une assurance privée que ton entreprise choisit et qu'elle te propose de payer à moitié. Donc déjà, bon, même ça, c'est vraiment hors de prix. Pour te donner un ordre d'idée, moi, mon assurance, elle coûtait $500 ou 450 € on va dire par mois. Sachant que moi, j'en paye que la moitié, tu vois. Donc, la compagnie complétée, donc c'est déjà énorme. Et donc, cette assurance-là, elle m'a permis d'avoir un accouchement entre guillemets, gratuit, même si finalement, si tu rajoutes tous les mois que tu payes, finalement, c'est pas si gratuit que ça. Mais l'accouchement lui-même, il m'aurait coûté 72 000 $. Donc ouais, c'est énorme. Et tu vois, il y avait une femme dans mon entreprise qui a accouché de triplés. C'était des triplés naturels. Elle est endettée à hauteur de 150 000 dollars parce que, en fait, elle n'avait pas prévu d'accoucher, tu vois, de triplés. En plus, quand tu prends des assurances, tu sais, ils sont malins parce qu'ils veulent que tu sois... quand tu ne prends pas une assurance pour qu'elle te paye ton accouchement à 5 mois de grossesse, quoi. Il faut que ça fasse déjà 10 mois que tu as pris ton assurance pour qu'ils s'y retrouvent, en fait, si tu veux. Donc, elle n'a pas pu faire autrement. Et comme à la naissance, tu vois, les triplés, c'est vachement médicalisé, bah, en fait, elle s'est retrouvée avec des factures qui tombaient derrière. Tu te dis, bah, je suis endettée, quoi. J'ai acheté mon accouchement, quoi. J'ai fait un prêt pour mon accouchement, quoi. C'est dingue. Donc, ouais, c'est hors de prix.
Et comment tu as sélectionné ta maternité, la maternité où tu accouchais? C'est le gynécologue de fait qui t'envoie là-bas?
Exactement. C'est lui qui te dit, c'est moi qui t'accoucherai n'importe quand tu accouches. Donc déjà, moi, j'ai trouvé ça vraiment... Je me suis dit, mais le mec n'a pas de vie, en fait. Parce que si à chaque fois qu'une personne... là, tu vois, je peux accoucher à minuit, comme je peux accoucher le 25 décembre, il m'a garanti à 100% qu'il m'accoucherait. Mais par contre, effectivement, il est relié à un hôpital où il connaît tout le monde. Il a ses petits potes anesthésistes et tout. Donc voilà. Du coup, il m'a dit, bah, tu accoucheras là. Et en fait, c'était pas plus mal parce que c'était au même endroit que là où il avait son cabinet. Et puis, je connaissais un peu les lieux et tout ça. Donc, au final, ça m'a bien arrangé.
Et alors, comment s'est passée toute ta grossesse?
Ma grossesse s'est passée de façon... ma grossesse au niveau santé, très, très bien. Donc, pas de problème et tout ça. Par contre, du coup, ici, donc encore une fois, je ne sais pas trop comment ça se passe en France et c'est pour ça aussi que je voulais t'expliquer un peu comment ça se passe pour que peut-être celles qui souhaitent qui ont le même rêve que moi d'avoir un enfant américain ou qui vont peut-être accoucher aux États-Unis ou qui aimeraient puissent le savoir. Ici, on n'est pas obligé d'annoncer sa grossesse jusqu'au jour J. Donc, à un moment donné, ils s'en rendent quand même un peu compte. Mais du coup, moi, je me suis dit, en tant que bonne française, tu vois, je me suis dit, bon, je vais quand même les prévenir assez tôt. Mon ventre, ça a commencé à se voir vers 5 mois, donc je me suis dit, bon, je vais leur dire à 5 mois que voilà, je suis enceinte. Donc, je profite d'un after work un peu informel avec tout le monde pour dire à mon boss, au fait, j'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte et tout. Donc là, ils me sautent tous dans les bras, ils me disent, félicitations, c'est génial, c'est super, tu vas voir la famille, c'est sacré, machin. Donc, trop contente. Et le lendemain, donc ça, c'était genre un soir à 18h, le lendemain, je reçois un mail avec... je sais pas, un document Word de 18 pages avec si tu ne remplis pas tes objectifs avant la fin de, enfin dans 2 semaines, tu seras virée. Donc je comprends pas du tout parce que ça se passait jusqu'à présent très très bien.
Ça faisait combien de temps que tu travaillais là-bas?
Ça faisait 6 mois. Enfin, ça faisait 6 mois que j'étais enceinte, quoi. Ça faisait 5 mois que j'étais enceinte plus que 6 mois que je travaillais là-bas. Enfin, bref.
Donc ça faisait presque un an, quoi.
Ouais, voilà, ça faisait presque un bon, pour la faire courte. Donc, voilà, et je commence à lire les objectifs, et là, je vois dans les objectifs, tu dois, parce que j'avais beaucoup de business trip, comme je te le disais, à faire, tu dois partir au Zimbabwe, puis après, tu iras faire un tour au Mozambique, à l'île Maurice, et il faut que tu rapportes je sais pas combien de deals, marketing, blablabla. Donc là, je me dis, attends, les mecs, je viens de leur dire que je suis enceinte, ils m'envoient en Afrique toute seule pendant 2 semaines à faire un road trip, pour faire je ne sais quoi, donc c'est bizarre, tu vois. Je me suis dit, c'est chelou. J'ai pas eu à faire ça pendant... depuis que je suis là, je comprends pas. Je continue de lire, ils me disent, il faut que tu arrives à signer des contrats avec 11 compagnies aériennes françaises. J'étais là, mais il n'en existe pas 11, en fait. Donc je commence à comprendre, en fait, que tout ce qu'ils me demandent là, ça va être complètement inatteignable. Donc je comprends qu'en fait, ils veulent me virer, tu vois. Mais ils n'ont pas le droit de te dire, écoute, t'es enceinte, donc je te vire, évidemment. Donc je vais voir mon boss et je lui dis, je comprends pas trop et tout. Ouais, on a décidé d'intensifier là, hier en parlant, on s'est dit, vas-y, on va intensifier les objectifs parce que t'es hyper motivé, on pense que tu peux le faire et tout. Trop bizarre. Donc évidemment, au bout des 2 semaines, je n'ai pas accompli mes objectifs puisque je ne suis pas partie au Zimbabwe, je ne suis pas partie au Mozambique et tout ça, donc voilà. Et en fait, à 4h, j'ai vu un vigile arriver dans ma salle. Et il m'a dit, viens avec moi. Il m'a pris mon carton. Je suis allée dans une salle avec mon boss, l'ARH, le vigile. Et ils m'ont dit, voilà, désolé, mais t'as pas pu remplir tes objectifs. C'est pas contre toi en tant que personne, mais c'est comme ça. Et donc voilà, et je me suis retrouvée avec mon carton, mes trucs, sans vraiment, tu vois. Moi, je me suis dit, ils m'ont dit, oui, tu seras virée, mais tu vois, je pensais que ça se négociait un peu, tu vois. Non, vraiment, comme dans les films, je me suis retrouvée avec mon carton, mon gros ventre. Et voilà, et c'était tout, quoi. Et en fait, le petit détail que je t'ai pas dit, c'est que quand, c'était en after work quand j'ai annoncé ma grossesse, et ils étaient un petit peu pompettes, on va dire, et j'ai entendu « we don't do pregnant women », ce qui veut dire « on ne fait pas les femmes enceintes ». Mais j'ai entendu ça, et je pense que mon inconscient l'a un peu balayé, tu vois, je me suis dit « non ». tu dois avoir mal compris, tu parles pas très bien anglais. Enfin, tu vois, je me suis remise en question en disant non, mais pas du tout. Et en fait, mais j'ai appris plus tard qu'ils ont viré également ma collègue avec qui je travaillais, qui était aussi enceinte, mais ils ont attendu jusqu'à son 8e mois pour lui dire, ben, tu prends tes affaires et tu t'en vas, quoi. Et c'est très bizarre parce que quand je suis arrivée dans cette entreprise, tu sais, ils te présentent tous les bénéfices, tous les trucs que tu vas avoir et tout, c'est trop chouette. Et tu vois, c'est marqué 12 semaines de congé mat, c'est génial, on prend soin des femmes et tout. En fait, t'as pas l'occasion de bénéficier de ces 12 semaines puisqu'ils te virent avant. Donc c'était vraiment, enfin franchement, c'est le hold-up du siècle de faire ça, je trouve. Donc voilà, et après je me suis évidemment renseignée, tu vois, j'ai appelé des avocats pour savoir si c'était légal. C'est complètement légal de virer des femmes enceintes, pas parce qu'elles sont enceintes, mais parce qu'elles ne peuvent plus faire le job. Donc, tu vois, par exemple, si t'es une femme et que tu dois soulever de temps en temps des charges, bah, ils peuvent te dire non, en fait, on veut pas de ça. Donc, j'ai vraiment trouvé ça fou et choquant. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je pense qu'en France, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Qu'en France, jamais on va te virer une femme enceinte, ou alors si on te vire, tu peux, mais retourner si elle est de terre. Et puis, enfin. En plus, après, du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais essayer de chercher du boulot. J'ai commencé à passer des entretiens, mais laisse tomber. Je rentrais le ventre, mais c'était fini. Enfin, à 5 mois et demi, c'était terminé. En plus, qu'est-ce que tu vas leur dire à la fin, dans 2 mois? Bah, écoutez, désolé, je vais accoucher demain. Enfin, à bientôt. Enfin, du coup, c'était compliqué. Tu peux pas trouver de boulot. Tu peux pas non plus, tu vois, en trouver après, parce que concrètement, si t'as pas de boulot et que tu viens d'avoir un bébé de 3 jours, tu vas pas trouver de boulot. Donc c'était assez sport, quoi. Et ça m'a bien, au début, ça m'a un peu chamboulé. Je me suis dit, c'est un petit peu dur. Et puis finalement, je me suis dit que c'était un signe, tu vois, c'est un signe de l'univers. Il faut que je crée ma boîte, il faut que je monte mon truc à moi, comme ça personne pourra me virer. Ce que j'ai fait, mais tu vois, sur le coup, ça a été pas forcément évident. Surtout qu'en plus, tu sais, quand t'es enceinte, t'as les hormones en folie et tout. Donc voilà, quand ils m'ont dit ça, je me suis effondrée. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et puis finalement, après, je me suis dit non, c'est trop bien. En fait, je suis motivée, je vais créer ma boîte. Mais en même temps, t'es fatiguée. Enfin bon, bref. Ascenseur émotionnel, on adore.
Et du coup, là, t'avais plus les aides, t'avais quand même les aides de la mutuelle pour la fin de ta grossesse?
Alors, ouais, c'est marrant de l'appeler ça aide, mais effectivement, j'ai pu bénéficier de cette mutuelle sur la fin de ma grossesse, mais j'aurais pu, mais j'ai switché sur celle de mon mari, puisque lui, il travaille dans une boîte française, donc forcément, il a beaucoup plus d'avantages. Donc, j'ai switché sur la sienne. Finalement, c'est quand même le même prix, mais au final, j'étais plus assurée avec lui parce que j'avais peur qu'il me la fasse à l'envers et qu'il me dise, écoute, voilà, maintenant que tu travailles plus chez nous, à tes 9 mois de grossesse, bon, bah, finalement, on a décidé de te supprimer l'assurance. J'avais pas trop confiance là-dessus. Donc voilà. Du coup, ouais, je suis passée sur son assurance à lui. Et entre temps, je me suis renseignée aussi, donc je le dis parce que, bah, moi, du coup, j'ai pas eu la chance de l'expérimenter. Mais, en Floride, le congé maternité, c'est 2 jours après. Et c'est tout. Et j'ai trouvé ça, mais aberrant. T'imagines 2 jours, tu viens d'accoucher et tu as ton bébé de 2 jours à qui tu le confies. Enfin, t'as les retours de l'accouchement. Enfin, j'étais choquée. Et apparemment, il y a seulement la Floride et un autre pays de je ne sais plus où dans le monde qui n'autorise pas plus de 2 semaines après l'accouchement, quoi. Donc voilà. Donc n'accouchez pas en Floride si vous voulez accoucher aux US parce que franchement, c'est chaud.
Et du coup, j'imagine qu'il n'y en a pas du tout pour le papa, congé paternité.
Zéro. Bah non, du coup, lui, le pauvre, j'ai eu une césarienne, j'y reviendrai plus tard, mais du coup, lui, il s'est retrouvé avec un bébé, avec son boulot. Encore une fois, c'était le coronavirus, donc ça va parce que, tu vois, il peut travailler quand même de chez lui, parce que je pense que s'il avait dû partir travailler, je ne sais pas comment j'aurais fait, je ne pouvais pas me lever. Donc ouais, c'était assez sport, quoi.
Oui, alors cet accouchement, donc finalement, c'est pas par voie basse, c'est par césarienne.
Exactement. Cet accouchement, il était prévu par voie basse, donc tout allait bien. Alors par contre, comme je te le dis, j'ai accouché en pleine crise du coronavirus. Donc déjà, j'ai dû négocier pour que mon mari puisse assister à l'accouchement, parce que voilà, ici, c'était vraiment l'explosion. Et ils m'ont dit, ok, s'il vient, il reste du début à la fin. Donc je me suis dit, bon bah moi ça me va très bien, lui de toute façon bah, il travaillera la nuit, je sais pas comment il fera, mais il se débrouillera quoi. Et donc il est resté, donc on est rentré, et ici il déclenche à 39 semaines. Déjà parce qu'il y avait la crise du coronavirus, mais ensuite parce qu'il pense que la 40e semaine ne sert pas à grand chose, si ce n'est faire en sorte que le bébé grossisse, tu vois, mais il pense que c'est plus sain et moins dangereux pour les accouchements que de déclencher à 39 semaines. Donc, du coup, bon, pareil, ça, j'avais pas trop, enfin, tu vois, j'avais jamais entendu parler de déclenchement, je savais pas trop pourquoi est-ce qu'on me déclenchait, mais bon, j'ai préféré lui faire confiance, tu vois.
Ça, il te l'avait dit dès le départ?
Il me l'a dit vers le 8e mois. Il m'a dit, pour info, on va te déclencher. Mais en fait, comme il l'a aussi passé sur le compte du coronavirus, j'ai pas voulu trop forcer, tu vois. Je me suis dit, oui, enfin, tu vois, en fait, si tu veux, ça a commencé à New York ici, le virus. C'était vraiment une énorme explosion de virus là-bas. Et ça descendait un peu à Miami. Et du coup, on était en train de se prendre le pic, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment. Et puis voilà. Donc, du coup, j'ai été déclenchée. Donc, c'est assez bizarre parce que tu vas à la maternité. Ils te disent rendez-vous à 6h. Et à 6h, tu sais que tu vas accoucher, quoi. Donc, c'est assez marrant. Enfin, marrant, non, mais en tout cas, c'est particulier. Et voilà. Donc, du coup, mon accouchement, ça a commencé par des injections. Non, d'abord le décollement de membrane qui fait, pour moi, qui fait assez mal. J'ai trouvé que c'était assez douloureux et assez, assez traumatisant.
C'est quoi un décollement de membrane ?
En fait, c'est comme un examen gynécologique, mais si tu veux, il met son doigt là et il décolle les membranes, tu vois, il force le décollement des membranes pour voir si ça déclenche ou pas l'accouchement de façon naturelle. Ce qui n'a pas été le cas. Et en fait, c'est pas très agréable parce que à ce moment-là, t'as pas d'anesthésie, tu vois, donc c'est comme si, j'ai trouvé que c'était un examen assez douloureux, quoi. En tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris. Et ensuite, ils m'ont donc posé une sonde avec des injections. Je crois que c'est de l'ocytocine, ça se dit en français. Je sais plus si c'est ça. C'est un médicament pour te déclencher les contractions. Ouais. Donc, je suis restée là-bas pendant de 6h à 14h, ça se passait très bien. Et alors aussi, petite différence, je pense, avec la France, c'est qu'ici, ils te disent, si tu veux la péridurale, maintenant, tu peux l'avoir, quoi. Il n'y a pas de, tu dois attendre d'être à 4, tu dois attendre d'avoir mal, ou je sais pas quoi. Là, c'était vraiment, tu vois, même quand ils m'ont posé l'ocytocine, ils m'ont dit, si tu veux la péridurale maintenant, pour ne rien sentir, tu peux l'avoir, quoi. Donc du coup, moi, je me suis dit, non, je vais essayer de faire ça, je vais être vaillante et courageuse.
Tu voulais, c'était un projet d'accoucher de manière physiologique, sans péridurale?
Non, franchement pas, non. Je voulais la péridurale, mais je me suis dit, je veux quand même expérimenter, tu vois, l'accouchement, parce que dans mon esprit, les péridurales, tu sentais plus rien. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était pas mal critique. Il y a des femmes qui critiquent d'autres parce qu'elles ont pris la péridurale, alors que pour moi, ça me semblait être... Enfin, tu vois, j'avais l'impression que c'était quasiment une anesthésie générale, le truc. Pas du tout. Donc voilà. Du coup, j'ai attendu jusqu'à 14-15 heures, et là, ça s'est intensifié. Et mon gynéco est venu me dire, bon, là, moi, je pars en césarienne pour une autre dame. Donc si tu veux la péridurale, c'est maintenant ou dans 2 heures. Et ça commençait à être vraiment devenir, tu vois, assez intense. Donc je me suis dit, je vais pas jouer avec le feu non plus. Je vais dire que je la veux, et voilà. Donc ils m'ont posé ma péridurale vers 14h, et là par contre, ça n'a rien changé. En fait, ça a changé que du côté gauche, et du côté droit, j'avais tellement mal. Et en fait, l'anesthésiste m'expliquait que c'est possible que ça marche que d'un seul côté, donc ça, je savais pas du tout que c'était possible. Mais du coup, c'est horrible, j'avais l'impression d'être un peu schizophrène, tu vois. Genre, d'un côté, j'étais là, je me sens super bien. Et quand la contraction montait, je me disais, mais c'était ignoble, j'ai trop mal, comment je vais faire, quoi? Et comme ça, et du coup, en fait, j'arrivais pas trop à l'expliquer, parce qu'en plus, il fallait que j'accouche en anglais espagnol, puisque à Miami, tout le monde parle anglais et espagnol. Et si tu veux, dans la vie de tous les jours, pour demander ta route et tout, ça va. Mais accoucher avec leurs termes hyper complexes, en plus, tu sais, ils se parlent entre eux. Donc encore, en France, quand ils se parlent entre eux, tu peux essayer de faire des... Tu vois, par exemple, s'ils disent un truc, genre, je sais pas... âgé, tu peux comprendre que c'est anesthésie générale, mais ici, le temps que tu traduises, que tu essaies de comprendre ce qu'ils disent, enfin voilà, bref. Donc c'était assez sport. Et ça a duré comme ça, donc avec des contractions très douloureuses jusqu'à 23 heures, où là je commençais vraiment à plus en pouvoir. Donc entre 20h et 23 heures, j'ai commencé à pousser, c'était vraiment horrible, quoi. Et à un moment donné, mon gynéco m'a dit, bon, là, ton bébé, son cœur ralentit, elle a 4 fois le cordon autour du cou, il faut qu'on parte en césarienne, ou alors il va y avoir des problèmes. Donc je me suis dit, il n'y a pas de problème, en fait, on part en césarienne, je préfère, tu vois, c'est pas grave. Et ça a été hyper rapide, franchement, ça a pris 20 minutes, mais par contre, aussi pareil, j'essaie vachement de communiquer ça sur mes réseaux sociaux, la césarienne, ça n'a rien de confortable. Je comprends pas ce terme de césarienne de confort. Je vois pas comment une femme peut se dire, tiens, je vais me faire un petit kiff et je vais partir en césarienne. Parce que franchement, c'est tellement douloureux. Alors, je veux bien croire que l'accouchement physiologique soit hyper douloureux. Enfin, ça, je n'en ai aucun doute. Mais penser que la césarienne, c'est quelque chose de confortable, je pense que c'est une grave erreur, et c'est quand même une intervention chirurgicale, tu vois. Ça fait vraiment mal. Même sur le moment, ça fait mal. Tu vois que déjà, ils t'attachent les bras en croix, déjà, pour quand même se dire, il y a quand même un truc, tu vois. Et même il te dit, enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé ça archi choquant. Surtout que je m'attendais vraiment, moi, je m'attendais à un truc où, tu sais, je regarde les oiseaux, et puis ils font leur truc, et puis voilà, j'ai rien à faire, et le lendemain, tout va bien, quoi. Pas du tout. Pas du tout.
Et ton chéri, il a pu rester avec toi pendant la césarienne ou pas?
Ouais, il est resté avec moi. Bah, lui, il a rien compris, pauvre, hein. Enfin, en fait, ils lui parlaient pas vraiment à lui, donc ils m'ont dit, bon, voilà, ton bébé, il a 4 tours de cordon, machin, on y va. Et donc, lui, on lui a dit, tiens, habille-toi, viens avec nous. Qu'il a pas trop compris où il allait, je pense qu'il s'attendait pas du tout à ce que ce soit une césarienne. Et il s'est retrouvé à côté de moi en césarienne, à pas comprendre vraiment ce qui se passait, à juste me voir complètement foutée, avec les bras en croix et des gens qui parlent d'une langue où on ne connaît rien. Enfin, donc c'était assez violent pour lui, je pense aussi. Donc moi, j'essayais tant bien que mal de le rassurer en lui disant, mais ça va, je ne sens plus grand chose, même si bien sûr que je sentais, mais tu vois, c'était moins douloureux que les contractions, on va dire, sur le moment. Par contre, l'après, ignoble. L'après césarienne, horrible. En fait, t'as une plaie. En fait, on t'a ouvert le ventre, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a un peu minimisé, tu vois, dans les discours. Mais c'est pas rien, en fait. C'est vraiment douloureux. Et en fait, le truc, c'est que, donc là, ils m'ont amené mon bébé, c'était très cool, mais je l'ai vu une demi-seconde. Le temps que l'anesthésiste fasse une photo, j'ai trouvé ça super bizarre. Je sais pas si c'est comme ça en France aussi. Il a pris son iPhone, il a pris une photo de nous et après, ils ont relevé mon bébé et voilà. Je trouvais ça super bizarre. Après, ils m'ont recousu pendant, je sais pas, bien 30 minutes et après, je suis partie en salle de réveil. Ça, c'est pareil, tu vois. Je pensais pas que c'était comme ça. Moi, en césarienne, je pensais qu'on t'amenait ton bébé, quoi. Et je me suis retrouvée toute seule dans une salle, avec une sage-femme méchante, toute seule avec elle. Voilà, et je me suis dit, mais comment va le bébé? Enfin, j'ai pas de nouvelles. Ils me l'ont enlevé, je sais même pas si c'était normal qu'ils me l'enlèvent. Enfin, donc j'ai un peu stressé pendant 2 heures et en même temps stressé, mais tu sais, ça, j'étais euphorisée avec toutes les substances qu'ils m'avaient injectées. Donc d'un côté je trouvais ça cool, la salle je la trouvais jolie, et en même temps j'avais super peur, enfin j'étais complètement à l'ouest, quoi.
Et alors après t'as retrouvé ta petite chérie?
Ouais, alors ça pareil, tu vois, je l'ai retrouvée 2 heures après, tout allait bien, elle était avec son papa, donc ça allait. Par contre je n'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé, enfin je l'ai vue, je me rappelle de l'avoir vue, voilà, on a fait des photos et tout. Mais j'ai pas trop de souvenirs jusqu'à le lendemain à midi, tu vois. J'ai accouché à minuit. Et ça, pareil, je trouve ça hyper dommage. Alors, je sais pas quelle dose ils m'ont mis. Peut-être qu'ils m'ont vraiment chargé, tu vois, en termes d'anesthésie. Mais j'ai trouvé ça hyper dommage. J'ai appelé ma famille, je me rappelle pas. Enfin, j'étais complètement dans la lune, quoi. Donc, pareil, je trouve que c'est dommage. Je pense que quand t'accouches physiologiquement, bah, tu te rappelles au moins de ton accouchement et tu te rappelles de l'après, ce qui est aussi une bonne chose. Donc voilà. Après, je l'ai retrouvé. Et en fait, en césarienne, ben, par la césarienne, en fait, ils considèrent qu'il faut que tu te remettes assez rapidement, ce qui veut dire que tu dois apprendre à aller aux toilettes de nouveau, toute seule. Et en fait, le truc, c'est que pareil, ça, je n'étais pas préparée, mais on m'avait pas dit que mon corps allait oublier comment faire. Et je ne savais plus comment faire. Déjà, pour se lever après une césarienne, c'est compliqué, j'ai eu des malaises et tout ça, mais surtout, réapprendre à faire pipi, c'est un truc qui te semble tellement évident, mais c'est pas du tout évident. Puis tu sais, ils t'ont mis une sonde urinaire, donc ça fait un peu mal. Donc, c'est bizarre parce que tu te dis, j'ai pas envie, mais en même temps, il faut que je le fasse. Bref, c'était assez. En fait, j'ai redécouvert mon corps. Je me suis dit, je ne sais plus marcher, je ne sais plus aller aux toilettes, faire les trucs basiques, quoi. Du coup, ils sont venus me voir en fin de journée en me disant, bon, le virus s'intensifie, t'as réussi, bravo, aller aux toilettes, félicitations, Nora, c'est génial. Maintenant, tu vas rentrer chez toi. Donc j'étais là, mais comment ça, je vais rentrer chez moi, j'ai une césarienne, je ne sais pas ce que je vais faire avec un bébé, j'ai jamais eu de bébé dans ma vie, tu vois. Et ils m'ont dit, ouais, mais là c'est trop dangereux, tu as l'air d'être en pleine forme, donc tu rentres chez toi. Donc voilà, le pédiatre est passé pour anesthésier, n'importe quoi, pour vérifier si mon bébé allait bien, tout ça, faire les tests. Et voilà, et j'ai pris mes valises, j'ai pris mon Uber et je me suis retrouvée 24 heures après ma césarienne chez moi. Donc, pareil, je sais pas, j'imagine que ça doit être un peu plus long. Je crois que c'est 2-3 jours quand tu vois ta couche en césarienne, mais quand il n'y a pas de coronavirus. Et là, ça a été hyper accéléré, quoi. Donc, ça a été archi sport pour moi parce que je pouvais pas me lever, comme je te disais. Donc, mon mari devait me porter, s'occuper du bébé. Je pouvais pas du tout porter mon bébé non plus parce que, en fait, toutes les charges, on te dit d'éviter.
Mais il t'avait donné des coordonnées de quelqu'un pour venir te voir à la maison pour faire les soins ou...
Non, pas du tout, parce qu'en pleine crise de coronavirus, personne ne se déplace. Donc, YouTube est mon meilleur ami. J'ai appris plein de choses. Mais tu vois, même avec un tout petit bébé d'un jour ou deux, Tu sais pas, tout te paraît bizarre quand on n'a jamais vu. T'as l'impression que tout ce qu'il fait, il va, quand il tousse, t'as l'impression qu'il va mourir. Quand il rote pas, tu dis que c'est la mort. Fin. Donc ouais, non, c'était vraiment très sport et j'espère. Enfin, je mets vraiment ça sur le compte du coronavirus. J'espère que toutes les femmes ne vivent pas ça. Mais tu vois, je pensais à ces 2 jours de congé maternité. Mais comment faire quand t'as une césarienne? Comment tu veux? Enfin, au bout de 2 jours, c'est impossible. Donc voilà, c'était assez sport. Mais au final, je m'y suis fait. Ce qui est aussi très positif ici, c'est que, tu vois, il y a des gros centres de pédiatrie, de choses comme ça, des hôpitaux qui sont ouverts tout le temps 24/24, donc c'est assez rassurant. Tu sais qu'ils te passent en priorité quand t'as un bébé ou quand t'es enceinte. Donc, quelque part, ça rassure, même si, au fond, chez toi, t'es tout seul, quoi.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie vite à l'aise, malgré tout ça, dans ton rôle de maman ?
Pas du tout. Pas du tout. Comme je te dis, dans ma vie, j'ai jamais eu d'enfant, jamais eu de bébé proche de moi. J'ai pas eu de cousin, de frère, de machin. Donc, j'étais super stressée les 3 premiers mois, quoi. J'avais l'impression qu'elle allait mourir toutes les 2 secondes. En plus, comme j'avais pas de. Tu vois, personne me disait, non, mais là, c'est normal ce qu'elle fait. Non, mais t'inquiète, les bébés, ça passe par 7 phases, etc. Bah, du coup, j'ai essayé de contacter un peu mes copines, mais bon, elles, pour elles, ça paraissait basique, tu vois. Quand je leur disais, attends, mais mon bébé, il n'a pas roté, est-ce que tu crois que c'est normal? Ou elle a du reflux, elle vomit et tout. Elles étaient là, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais quand tu n'as pas vraiment vécu, tu te stresses de rien, quoi. Donc, j'étais super stressée. Puis finalement, voyant qu'elle allait de mieux en mieux, puis tu sais, avec les visites régulières chez les pédiatres, ça allait. Donc, je me suis détendue. Mais ça n'a pas été facile du tout. Et j'aurais bien aimé être accompagnée, tu vois, par une sage-femme qui vient régulièrement vérifier... que ça va, même moi en fait, ma cicatrice, tu vois, je savais pas du tout. Il y a aussi un truc qui est aberrant ici, c'est que le périnée, c'est un concept un peu flou où, ben, tu vois, il m'a dit tu peux refaire de la corde à sauter après ton accouchement. Et j'étais là, mais si j'ai cru comprendre qu'il y avait des histoires de périnée qu'il fallait remuscler, et il m'a dit non, mais ça t'inquiète, c'est monté musclé. J'étais là, mais d'accord, mais mon périnée, est-ce que j'ai peur de faire une descente d'organes et tout? Et tu sais, rien n'est un problème ici. Ils sont là, mais pas du tout, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Pareil pour la toxoplasmose, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais non, je ne crois pas. Ils m'ont dit, mais non, tu peux y aller, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bactéries dans nos viandes. Enfin, tu vois, en fait, bon, après, je veux bien le croire, parce qu'à mon avis, elles sont tellement transformées que ce n'est plus vraiment de la viande, mais si tu veux, pour eux, tout est léger, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'ils ont fait leur boulot de, ok, j'ai sorti le bébé, la maman est vivante, basta, tu vois. Et je trouve que ça manquait vraiment de... Bah, tout ce que tu peux avoir après l'accouchement, tu vois, même les ostéopathes pour bébé, je sais que ça existe, tu vois, mais ici, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est bon, c'est intéressant à savoir et c'est bon à savoir aussi.
Et du coup, en plus, toi, t'es expat, donc j'imagine que les copines, la famille...
Non, la famille devait venir, mais à cause du virus et des frontières fermées, c'était pas possible. Donc, effectivement, je me suis retrouvée... on s'est retrouvés à 3, ce qui finalement n'est pas plus mal. Parce que du coup mon mari travaille de chez nous aussi, donc en fait on s'est retrouvés, on a vraiment eu un moment, bon un long moment puisque ça fait 8 mois maintenant, mais je veux dire on a eu un long moment tous les 3. Et je pense que c'était pas mal pour trouver ces marques, tu vois. Je sais pas si je me serais sentie à l'aise d'avoir des gens chez moi ou des gens qui viennent chez moi alors que je peux pas bouger, alors que tu vois, je sais pas. J'arrive pas trop à me faire à l'idée, donc voilà. Mais du coup mon bébé, ça a un gros impact sur lui puisque elle n'a connu que nous 3, enfin que nous 2 du coup. De toute sa vie. Donc, quand on a commencé à essayer de la faire garder, elle a dû se dire, mais attends, comment ça? Moi, je croyais qu'on était 3 sur Terre, mes parents, moi et le pédiatre dans une autre dimension. Mais c'est qui cette personne qui vient, tu vois? Et donc là, en ce moment, je suis en pleine adaptation, tu vois, écoute, je ne suis pas la seule personne sur cette Terre. En plus, elle a 8 mois, donc en voie de séparation. Donc, c'est assez sport. Donc, franchement, mon conseil aux mamans qui accouchent même en temps de Covid, c'est essayer de montrer d'autres gens à leur bébé un maximum pour qu'elles comprennent, quoi, pour qu'ils comprennent.
Est-ce que t'as pas fait de visio, vous avez pas fait de balade dans la rue, rien du tout, vous êtes restée
Au début, pas du tout, parce que c'était interdit. Donc voilà, après les visios, ouais, mais les écrans pour les bébés, c'est pas ouf, donc j'ai essayé de pas trop le faire. J'ai dû lui montrer 2 fois la famille, quoi. Et après, j'ai pu rentrer en septembre, heureusement. Mais sinon, ouais, non, les premiers mois, elle a dû se dire, il y a un mec que je connais, c'est un pédiatre, il s'occupe de moi. Et puis, mes parents, et basta, tu vois. Donc, voilà, c'était assez marrant. Enfin, marrant. Pas pour elle, en tout cas, je pense qu'elle a vécu un bon début de vie. Avec 2 personnes à ses petits soins, tu vois, ça va.
Et alors, au niveau, justement, de la scolarité, entre guillemets, ici, c'est à Miami, c'est le même système. Il y a des crèches, des nounous. Comment ça se passe?
Ouais. Alors, c'est très très cher. déjà, c'est la première chose. Enfin, je pense que c'est le truc qui saute aux yeux. Il y a des crèches, effectivement. Ici, les enfants commencent l'école à 5 ans. Donc, en fait, de 0 à 5 ans, tu as des pré-school, on va dire. Enfin, c'est comme les écoles, mais c'est, si tu veux, beaucoup plus ludique. Ils ne sont pas assis à des tables, ils s'amusent, ils font des activités. Et alors, à Miami, il y a donc deux systèmes. C'est les nounous qui viennent chez toi, la plupart du temps. Donc, du coup, ça peut être aussi rassurant pour celles qui n'aiment pas forcément, qui n'ont pas confiance, ou voilà. Et les crèches. Les nounous qui viennent chez toi, c'est entre 20 et 25 euros dollars de l'heure. Donc, c'est quand même pas donné. Tu vois, si tu veux le faire garder de 8h à 18h parce que tu travailles, c'est quand même assez cher. Il faut avoir l'argent. Par contre, c'est assez rassurant, tout ça, même si chez toi, c'est pas forcément baby-proof et qu'il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, si t'as pas un endroit hyper adapté, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, après, c'est leur boulot, on va dire. Et les crèches, tu vois, là, j'ai visité une crèche récemment. J'ai été un peu choquée parce que dans les crèches ici, j'ai vu beaucoup d'écrans. Je pensais que c'était interdit, enfin, je pensais que c'était pas recommandé. Tu vois, j'ai vu des enfants de 2 ans, 4 enfants de 2 ans devant une tablette pendant que les autres s'occupaient, enfin, tu vois. Mais et j'ai trouvé ça fou parce que je pensais pas, même si, tu vois, même si c'est des jeux éducatifs ou j'en sais rien, je pense que tu peux faire autre chose avec des enfants de 2 ans, quoi. Enfin, donc, ça m'a un peu choquée. Pareil, ce qui m'a choquée aussi, c'est les repas. Donc, t'as le choix d'apporter toi les repas ou de prendre les repas des gens sur place, quoi. Enfin, de ce qu'ils préparent sur place. Mais ce qu'ils préparent sur place, c'est, tu vois, pour, à partir de 2 ans, c'est, pudding, scones, tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est des scones, mais c'est des espèces d'énormes cookies hyper secs. Ils ont ça à 4 heures, tu vois. Mais à 2 ans, pour moi, à 2 ans, tu manges ta compote de pommes et voilà, comment. Hein. Donc, tu vois, pareil, ça m'a un peu choqué. J'ai trouvé ça un peu incroyable. Par contre, en termes de prix, bah, tu vois, pour 3 demi-journées, c'est 1 700 $. Donc, si tu veux faire 5 demi-journées, pour la moins chère de toutes, c'est quasiment 3 000 $ par mois. Donc, il faut les avoir. C'est comme si tu devais sortir 2 800 € par mois, plus ton loyer qui coûte pas loin de 3 000 €. Enfin, donc, en fait, je me dis, les crèches, tu vois, ici, t'as pas besoin de réserver ta crèche. Hein. Il n'y a pas de, alors je suis enceinte, je vais avoir un bébé. Ils s'en fichent, puisque de toute façon, il y a de la place, puisque personne, enfin, pas grand monde peut se payer une crèche aussi chère, quoi. Donc, du coup, ça, c'est vraiment la grosse différence avec Paris, parce que je me rappelle que mes copines enceintes de 3 mois à Paris, elles réservaient leur crèche, leur place en maternité. Mais non, ici, tu peux y aller, quoi. Même si maintenant, tu vois, je me réveille demain pour après-demain, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc, les crèches, ici, c'est un peu un concept assez, assez abstrait. Surtout, je me demande qui peut se permettre de mettre son enfant à la crèche, tu vois. Et là, encore une fois, je te parle des crèches basiques. Hein. Enfin, je ne suis pas allée voir les crèches. J'ai même pas regardé le prix de la crèche Montessori où tes enfants ont des cours de yoga, des cours de musique, des cours de peinture et tout ça. Enfin, je pense que c'est 5 000 $, quoi. Vraiment. Donc, voilà, il faut avoir les moyens. Quand on veut faire un enfant aux États-Unis, il faut prévoir son accouchement, il faut prévoir les crèches, après l'après-césarienne, enfin voilà, il faut vraiment prévoir les choses, quoi.
Est-ce que tu connais d'autres mamans dans ton quartier? Est-ce que tu peux sortir, échanger sur les sujets de la maternité?
Ouais, j'ai une voisine qui a accouché 3 mois avant moi, donc c'est parfait. Et puis effectivement, j'ai d'autres copines ici qui ont eu des enfants, donc on peut effectivement en parler. C'est d'ailleurs elles qui m'ont un peu tout le temps rassurée, tu vois. Parce que, bah, encore une fois, mes amies en France, clairement, ne pouvaient pas venir, et puis elles sont tellement loin qu'elles se rendent pas compte, tu vois. Donc effectivement, ici, ce qui m'a un peu aidée, je pense, c'est qu'au bout du 6e mois, là, ils ont enlevé le confinement, donc j'ai pu, tu vois, même ne serait-ce que présenter ma fille à mes copines, à leurs enfants, pour qu'elles commencent à comprendre que les enfants, ça existe et tout ça. Donc, effectivement, ça m'a fait du bien de parler avec elle. Le truc qui m'a pas fait du bien du tout, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce que j'avais cru comprendre, ici, bah, ça, c'est la réalité des choses. Les deux jours de congé mat, le fait qu'ils peuvent virer les femmes enceintes, le fait que tu dois trouver une nanny qui s'occupe de ton bébé à 2 jours, c'est vraiment le cas. Enfin, et tu vois, ça, je me suis vraiment dit, c'est vraiment pas l'endroit pour accoucher, en fait. Et puis, je sais même pas quel nounou s'occupe d'un enfant de 2 jours, quoi. Enfin, une sage-femme, ou sinon rien, quoi, je sais pas. Ouais. Enfin, moi, je laisserais pas mon enfant à une femme comme ça, qui est juste nanny, tu vois, à 2 jours. Ça me semble tellement... J'ai besoin de quelqu'un qui... J'ai limite envie de le donner à mon gynéco, tu vois. Genre pas mon gynéco, mais mon pédiatre qui s'en occupe, tu vois. C'est fou.
Et ses copines, elles sont américaines ou ce sont des expats aussi?
Les deux. Les deux, et donc, comme je te disais, dans mon ancienne entreprise qui m'a licenciée, ils ont licencié une femme qui était à 8 mois de grossesse, et donc elle, c'est toujours mon amie. Et elle, par contre, elle a beaucoup d'argent, donc elle s'est permis de les poursuivre en justice. Je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, elle s'est pas du tout laissé faire, et je pense qu'elle va essayer de faire bouger les choses aussi. C'est une personne assez influente en Floride, tu vois, et je pense qu'elle a des contacts qui peuvent peut-être faire bouger les choses, mais bon, je lui souhaite bien du courage, parce que franchement, quand tu viens d'accoucher, t'as juste pas envie d'être dans des trucs de d'avocat. En plus, ça coûte vraiment cher. Enfin, tu vois, une heure d'avocat ici, ça coûte 5 000 $. Au début, on m'a suggéré on m'a dit, mais attends, mais te laisse pas faire. Il faut que t'arrives à te faire, tu vois, il faut que t'arrives à te faire entendre et tout. C'est pas normal qu'ils te virent et tout. Et donc, j'ai regardé, tu vois. Moi, naïvement, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un avocat. Mais en fait, je me suis dit, mais pas du tout. J'ai déjà déboursé 72 000 € pour mon accouchement. Je vais pas du tout donner 5 000 $ à quelqu'un qui va rien avoir. Enfin, tu vois. Donc, c'est très cher.
Ouais, tout coûte beaucoup, en fait.
Tout coûte cher. Tout coûte cher. Le lait, les couches, ça coûte cher. Les pédiatres, ça coûte cher. Enfin, tout coûte super cher.
Et du coup, toi, tu fais quoi maintenant? Tu disais que tu avais monté ton entreprise.
Ouais, bah du coup, pendant ma grossesse, j'avais plein d'idées. En fait, si tu veux, j'ai jamais été très... tout ce que je faisais dans les entreprises, ça m'a certes beaucoup apporté, mais ça n'a jamais été vraiment mon truc, tu vois. Le marketing, c'est très sympa de marketer des compagnies aériennes et tout. Mais bon, j'avais trouvé que ce n'était pas le but de ma vie, si tu veux. J'avais pas l'impression de servir le monde. Et puis, ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux, que je donne beaucoup de conseils de développement personnel et tout ça. Donc, je me suis dit, bah... Puisque tu as été virée, autant te former et devenir coach. Je voulais devenir coach depuis un moment. Donc, je me suis formée, j'ai passé pas mal de certifications, j'ai appris plein de trucs, j'ai suivi une formation à Harvard aussi pour me former, pour être un peu plus légitime, si tu veux. Et en fait, au-delà d'être légitime, j'ai appris tellement de choses que je me suis dit, bah, c'est bon, c'est exactement ce que je veux faire. J'ai envie que tout le monde sache tout ce que je viens d'apprendre. Donc, j'ai créé mon entreprise aux États-Unis. Et depuis, bah, en fait, depuis que j'ai accouché, je travaille la nuit. Je travaille quand mon bébé dort, c'est-à-dire maintenant de moins en moins. Mais du coup, ça m'a permis de, tu vois, la fin de ma grossesse m'a permis de bien établir tout ce que je voulais faire. Je suis suivie aussi par quelqu'un, par une coach ici, une coach business qui me permet de mettre bien tout à plat. Donc, en fait, c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, j'ai toujours eu envie de créer mes propres choses. Tu vois, là, je suis en train de créer une marque de vêtements éthique. Et j'avais vraiment envie d'exprimer ma créativité que je trouvais un peu brimée dans toutes ces entreprises, tu vois. Souvent, on te dit non, c'est pas le process, non, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Et donc, j'avais vraiment besoin de m'exprimer. Donc, en fait, ma process, ça a été l'éclosion.
Un mal pour un bien, finalement.
Exactement. Finalement, parce que sur le moment, je peux te dire que je ne le voyais pas du tout comme ça. Sur le moment, je me suis dit, j'aurais pas d'argent pour nourrir ma fille, je vais mourir, comment je vais faire, quoi. C'était compliqué.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Ça a changé le fait que je suis archi plus patiente. J'étais pas du tout patiente avant. Ça a changé aussi mes priorités dans la vie, tu vois. Avant, j'avais l'impression que avoir beaucoup d'argent, être carriériste, c'était important. Bon, certes, c'est important aux États-Unis d'avoir beaucoup d'argent juste parce que t'as envie de survivre. Mais au-delà de ça, maintenant, je me rends compte que toutes ces choses qui me tenaient vraiment à cœur, au final, c'est assez dérisoire parce que maintenant, la seule et unique chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de transmettre de belles valeurs, de laisser un monde, on va dire, plus apaisé, plus beau pour ma fille et de lui expliquer que la vie, c'est cool, mais qu'il y a plein de choses qui se passent. Enfin, en fait, j'ai plus envie de transmettre maintenant. Avant, j'avais envie de transmettre, mais je me disais, bon, si les gens changent pas, c'est pas grave, tu vois. Là, je me dis, si on arrive à tous changer en même temps et à devenir de meilleures personnes, bah, ça va être trop cool pour nos enfants, si tu veux.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman à Miami?
Elles portent des pantalons de yoga, elles boivent du matcha et surtout, elles sont pas stressées, elles sont relaxes parce que être une maman à Miami, c'est être une maman au soleil, être une maman entourée de gens hyper gentils, hyper bienveillants et c'est vraiment, ça vaut le coup quand même, malgré tous les up and down que ça implique, ça vaut le coup, c'est génial.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Miami?
Ah, kids friendly, je dirais que c'est le parc Domino à côté de chez moi, qui est vraiment immense et que bah, tu vas en fait, si tu veux rencontrer d'autres mamans, tu vas là-bas et tu peux être sûre que tu vas rencontrer des gens.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Ce prévu en famille, on va sûrement déménager prochainement, peut-être pas forcément des États-Unis, mais on va en tout cas certainement bouger dans les États-Unis. Et que pour moi, bah, comme je te disais, j'ai créé une marque de vêtements qui va sortir très bientôt. Je vais aussi commencer à créer une académie pour des coachs, donc j'ai pas mal de projets perso aussi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon et vous le savez, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur iTunes et évidemment, vous pouvez en parler autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Laura, retrouvez-nous sur le compte Instagram @letourbillonpodcast pour laisser vos commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.